Il est maintenant 8h23 à Paris. Voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Et à la une de la presse française ce mercredi, le prince à la merci du sultan.
C'est l'affaire Jamal Khashoggi qui fait la une de Libération ce mercredi. Le prince en question, c'est le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le sultan, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'assassinat du journaliste et opposant saoudien dans les locaux du consulat à Istanbul, c'est la bonne affaire d'Erdogan pour Libé. L'occasion était trop belle pour s'en priver et ce sordide fait divers devenu affaire d'État. Mais le président turc en position de force face à Riyad, Recep Tayyip Erdogan avait les projecteurs braqués sur lui hier alors qu'il avait promis la vérité nue sur l'affaire. Et il n'a pas mâché ses mots, avalisant le scénario de l'assassinat. Un meurtre sauvage et surtout planifié, assure le président turc. De quoi mettre à mal la ligne de défense du royaume saoudien qui parlait jusque-là de bagarre qui avait mal tourné. Le président turc en veut pour preuve, rapporte Libé, la désactivation par les officiels saoudiens des caméras de surveillance du consulat avant l'arrivée du journaliste. Le Figaro se fait aussi l'écho d'une vidéo diffusée par CNN dans laquelle on voit un homme portant une fausse barbe, des lunettes et les vêtements de la victime sortir du consulat. Un sosie encombrant, juge le Figaro, d'autant qu'il portait les mêmes baskets blanches que l'un des tueurs présumés. Malgré cette déclaration coup de poing, précise le Figaro, Recep Tayyip Erdogan s'est bien gardé d'incriminer nommément le pouvoir saoudien. En reconnaissant le meurtre, le gouvernement saoudien a fait un pas important, estime le président turc. Ce que nous attendons de lui maintenant, c'est qu'il mette au jour les responsabilités de chacun dans cette affaire, du plus haut niveau au plus bas. Pour autant, Erdogan a le revolver braqué sur la tempe de MBS, écrit le Figaro, et il ne compte pas lever sa menace tant que son père, le roi Salman, ne l'aura pas marginalisé. On en est loin, Salman n'ayant pas hésité samedi à nommer son fils à la tête d'une commission d'enquête sur les services de renseignement du royaume.
Et cette affaire, la presse y revient longuement, Nathanaël, elle embarrasse aussi les Occidentaux.
Oui, car de quelle faute accuse-t-on aujourd'hui celui qui a décidé depuis son arrivée aux affaires d'écraser le Yémen sous les bombes, de kidnapper le premier ministre libanais, de vivre dans un luxe absolu et de décider de tout pour faire entrer son pays dans une modernité de façade, se demande la Charente libre. Mohamed Ben Salman se pensait intouchable. Aurait-il eu tort de penser l'inverse alors que Trump et tout le business d'Amérique se demandent encore s'il faut épargner ce vaillant prince qui tient tête à l'Iran et peut faire exploser du jour au lendemain le baril de pétrole. Et les Américains ne semblent pas les seuls à se montrer embarrassés. Le Parisien aujourd'hui en France note que dans cette affaire, Paris fait profil bas. Le journal pose ainsi l'équation cynique qui se pose aux diplomates français. Comment dire son mécontentement tout en restant en bon terme? Après tout, les clients ne sont-ils pas les rois, surtout quand ils vous achètent pour près de 5 milliards d'euros par an, hors armement? Le patron du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, dont le Parisien rappelle qu'en tant que ministre de la Défense de François Hollande, il avait tissé des liens très étroits avec Riyad, s'est borné à demander une enquête exhaustive. Difficile de faire moins, conclut le journal.
À la une également, Bruxelles qui rejette fermement le projet de budget italien.
Et c'est la première fois de l'histoire de la Commission européenne qu'elle demande ainsi à un État membre de revoir totalement sa copie, précise les Échos. Bruxelles tient dette à l'Italie, s'amuse en titre Libé, car c'est bien de la dette italienne qu'il s'agit. Elle dépasse 130% du PIB italien, soit la dette la plus élevée de la zone euro, après celle de la Grèce, et l'une des plus élevées au monde, martèle la Commission. Pour Libé, l'intransigeance du gouvernement italien, composé des populistes du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, n'a pas laissé le choix aux instances de Bruxelles. Désormais, Rome a 3 semaines pour présenter un nouveau budget. Pour répondre par avance aux protestations des populistes italiens, la Commission a d'ailleurs pris soin d'avancer ses arguments, rapporte Libé. Non, la dette n'est pas un point de détail. Les intérêts payés chaque année représentent 65 milliards et demi d'euros, soit le budget consacré à l'enseignement. Pour Sud-Ouest, on assiste toutefois à un bras de fer en mode mineur. D'une part, ce conflit n'est pas une surprise, estime le journal. Ensuite, même si la menace qui pèse aujourd'hui sur la troisième économie européenne pourrait avoir des conséquences sur toute l'Union, si d'aventure elle se décidait à faire cavalier seul, ce n'est pas pour autant le scénario le plus probable. Pour Sud-Ouest, les dirigeants italiens veulent détendre l'élastique budgétaire européen, mais eux-mêmes n'ont jamais envisagé d'Ital exit. Et puis se rassure le journal, comme ces grandes banques américaines lors de la crise de 2008, l'Italie est too big to fail, comme c'est le cas avec le Brexit. Écrit le journal, un accord interviendra tôt ou tard, tant les enjeux sont grands pour les deux parties.
Enfin, à lire dans La Croix, un dossier consacré à la PMA.
La procréation médicalement assistée qui pourrait bientôt être ouverte à toutes les femmes, célibataires ou homosexuelles. Ce qui réveille les craintes d'une partie de la communauté catholique pour les rassurer ou en tout cas pour leur permettre de comprendre. Le journal a donc donné la parole à des femmes ayant eu recours hors de France aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Donner la parole n'est pas approuvé, prévient le journal, soucieux de préserver ses électeurs. Avant de poursuivre, mais il nous a paru important de faire entendre leur voix, y compris à celles et ceux qui désapprouvent une telle option. En photo d'illustration, une maman agenouillée aide sa fille à fermer son blouson dans un parc, une scène banale. Sauf qu'Isabelle Laurence, la maman, a eu un bébé toute seule via une PMA en Belgique. Elle raconte la séparation avec son compagnon et à 38 ans, le désir d'enfant toujours présent. Mon désir de maternité était très fort. Je me suis dit que je risquais de passer à côté si j'attendais de rencontrer quelqu'un. Delphine, elle, était en couple avec une autre femme, Émilie. Toutes les deux voulaient constituer une lignée, transmettre leur culture bretonne et italienne. Elle détaille le parcours du combattant, les allers-retours en Belgique, la difficulté pour trouver une gynécologue ou un gynécologue qui veuille bien les suivre en France. Être enceinte dans ces conditions, psychologiquement, physiquement, c'est difficile, raconte-t-elle. J'avais l'impression d'être une délinquante, de devoir me cacher alors que je voulais juste avoir un enfant.